Hello, bienvenue sur Leader Magnétique, le podcast associé au blog Parrainage Magnétique. Sentez-vous libre de taper dans Google « Parrainage Magnétique » afin de tirer avantage des ressources sur ce blog. En attendant, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sam du blog samessandra.com. Et Sam fait partie de cette minorité de blogueurs MLM qui réussissent grâce à un blog. D'ailleurs, pourquoi une minorité seulement blogue pour prospecter ? Pourquoi si peu de concurrence dans le blogging MLM selon Sam ? En combien de temps est-il parvenu à comptabiliser 200 visiteurs par jour ? Il le dit parce qu'il est un blogueur altruiste, mais c'est quoi au juste un blogueur altruiste ? Voilà, bonjour, bonjour Sam.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Leader Magnétique. Et si j'ai souhaité t'interviewer, c'est parce que tu as deux compétences majeures qui peuvent être très, très utiles dans les métiers ou le métier du marketing de réseau. La première compétence, c'est que tu es un blogueur, on dirait presque confirmé, parce que tu as un blog qui fonctionne bien. En tout cas, comparé à beaucoup, beaucoup de blogs MLM, et on va en parler, on va voir ce que c'est qu'un blog qui fonctionne bien. Puis la deuxième compétence, c'est que tu es un financier. Donc, ça te donne un regard un peu plus rationnel sur comment finalement on cherche des prospects et surtout comment on peut mettre en œuvre un blog qui serve finalement d'instrument de prospection. Parce que je pense que quand on est un peu quand on a la tête sur les épaules en étant très rationnel, à mon avis, on peut en discuter évidemment, on va quand même un peu plus vite. Et donc, est-ce que c'est une façon de bien te présenter?
Oui, je pense que c'est assez bien résumé le côté rationnel et puis en termes de compétences, oui. Blogueur, oui, c'est en fait relativement récent, c'est 18 mois. Mais comme j'ai toujours bien aimé écrire, je me suis dit que c'était un moyen de prospection pour moi qui me parlait plus que Facebook ou Instagram, par exemple, ou de faire des vidéos TikTok. J'en fais aussi maintenant, mais au début, j'ai commencé plutôt par le blogging. Ça me
Oui,
parlait plus.
oui, oui. C'est parce qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs, c'est que tu as une façon d'écrire aussi qui donne envie de lire jusqu'au bout les articles. Et ça aide.
Oui, évidemment, mais bon, là derrière, il y a aussi beaucoup de formations en autodidacte aussi. Je me suis beaucoup formé sur ce qu'on appelle le copywriting. Donc le fait d'arriver à susciter l'intérêt du lecteur et le fait d'arriver à le faire tenir jusqu'au bout, parce que certains articles peuvent paraître longs, 3000, 3500 mots. C'est un chiffre qui dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais 3500 mots, il faut compter 10 à 15 minutes de lecture. Donc si on n'arrive pas à susciter l'intérêt pour attirer le lecteur à aller jusqu'au bout, eh ben c'est un peu compliqué.
Oui. Alors le copywriting, pour celles et ceux qui savent pas trop ce que c'est l'art d'écrire pour persuader. Hein, voilà, c'est un
Exact.
ensemble de techniques d'écriture qui déclenchent des mécanismes d'adhésion à distance. Avant Internet, ceux qui maîtrisaient ça, c'était les VPCistes, les vendeurs par correspondance. Et c'est toujours le cas. Hein, ils maîtrisent toujours autant. Et le copywriting doit beaucoup à ces professionnels. Et donc ton blog, quand je disais que tu avais une vraie compétence dans le blogging, c'est parce que finalement t'es parvenu à des niveaux de nombre de visiteurs par mois que peu de gens atteignent. Et est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, alors au début, ben, c'est clair que le blogging, c'est quelque chose qui fonctionne un peu comme. J'ai toujours comparé ça à un moteur diesel. Il faut pas mal de temps pour le chauffer, mais d'une fois qu'il a une bonne température, c'est quelque chose qui carbure et qui dure dans le temps. Par contre, c'est vrai que ce qui fait peut-être qu'il y a relativement peu de concurrence dans le blogging, c'est que c'est quand même assez astreignant au début. Donc, il faut avoir une bonne dose de courage, écrire des articles, et puis se dire que s'il n'est pas lu, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a autant de gens qui vont aimer ou pas, mais c'est égal. Mais si l'article n'est pas parfait au début, c'est pas grave parce qu'il n'y a personne qui va le lire. Et c'est un fait avéré parce que dans les recherches Google, tant qu'un blog n'est pas un petit peu mature, il n'y a personne qui va tomber dessus, sauf en faisant des publicités payantes ou alors en partageant les articles dans des groupes Facebook comme je l'ai fait. Mais au début, c'est très, très, très astreignant. Il m'a fallu quand même bien 6 à 7 mois pour commencer à avoir au moins 200 visiteurs par jour, ce qui est déjà pas mal.
C'est énorme.
C'est déjà beaucoup. Après, le pic que j'ai eu, c'est en mars de cette année. Je suis arrivé à 22 000 sur un mois. Et ce qui est énorme, ce qui faisait de mon blog, en fait, le meilleur classé des blogs MLM francophones. Après, ça reste relatif. On y reviendra aussi plus tard, où j'expliquerai quelque chose que le trafic ne fait pas tout. Et puis après, maintenant, depuis mars, j'ai de nouveau pas mal chuté. Il y a certainement plusieurs raisons à cela, entre autres le changement d'algorithme de Google qui est intervenu entre mars, avril, puis encore
Oui,
maintenant.
en effet.
Il y a ça, entre autres. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai changé d'hébergeur. Donc, Google, se repère souvent des adresses IP et mon hébergeur a changé. Il était aux États-Unis et maintenant je l'ai rapatrié dans mon pays, en Suisse. Donc, je pense que ça a certainement un effet aussi. Et puis, il y a un autre effet aussi, après analyse de mon SEO, donc c'est-à-dire du search engine. Enfin, c'est un peu technique, mais ce qui fait que Google trouve ou pas mon blog, j'ai perdu beaucoup de backlinks. Les backlinks, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un lien qui pointe vers mon blog, mais qui vient d'un autre site internet à forte autorité. J'ai perdu bien plus de la moitié de mes backlinks entre mars et fin avril. Et j'ai perdu le 2/3 de mon trafic. Ouais, non pas le 2/3, la moitié, un peu plus de la moitié. J'étais à 9 000 vues en avril au lieu de 22 000 en mars. Et c'est énorme parce que le trafic a beaucoup d'enjeux pour un blog. Parce qu'un blog, on ne se contente pas uniquement de partager de l'information et de la connaissance. On doit aussi le monétiser, mais peut-être qu'on va peut-être aussi en parler plus tard. Mais le trafic est quand même un enjeu assez important. Mais j'étais content. J'ai fait une belle croissance en 15 mois. Oui, arriver à 22 000, je
Oui,
m'attendais pas à un tel succès, honnêtement. Mais bon, en de notre côté, sans me lancer des fleurs, j'ai aussi tout fait pour y arriver. Mais je suis quand même très content d'y être arrivé assez relativement rapidement.
Et donc, le seul fait d'avoir changé d'hébergeur, t'as supprimé la moitié de tes backlinks, c'est étrange.
Je ne sais pas si les deux éléments sont directement liés, mais je suppose quand même qu'il y a un lien, en tout cas avec la chute du trafic et le changement d'hébergeur. Après, je ne sais pas s'il y a un lien entre la perte des backlinks et le changement d'hébergeur. J'ai pris conseil auprès d'un coach SEO qui m'a dit que les backlinks pouvaient disparaître parfois si on les avait payés, ce qui n'est pas mon cas, j'ai jamais payé pour un backlink. Des backlinks où j'ai par exemple écrit des articles invités sur d'autres blogs MLM ou d'autres blogs même plus généralistes dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais payé, j'ai jamais sorti un franc en fait pour prospecter jusqu'à présent, à part l'abonnement évidemment à WordPress et puis ce qui est des aspects techniques du blog, mais j'ai jamais fait de publicité. Donc, j'ai jamais acheté de backlink, mais j'y travaille de nouveau. C'est un des enjeux du blogging, c'est d'arriver à déterminer qu'est-ce que veut notre ami Google, en fait, finalement. Non seulement il faut trouver ce que les gens ont envie de lire, il faut écrire pour les gens, il ne faut pas écrire pour soi. Et puis après, il faut que Google, nous mette en avant, parce qu'un blog qui est en deuxième page, il n'est jamais vu. Même sur une première page, le premier de liste tire, la moitié du trafic, quasiment.
Oui, c'est vrai.
Donc, il faut vraiment être tout en haut, il faut être dans les trois premiers, sinon on n'existe pas. Donc, il faut comprendre comment Google fonctionne et qu'est-ce qu'il attend de nous. Puis voilà. Il faut être très altruiste en fait quand on fait du blogging. Il faut écrire pour les autres et puis pour les moteurs de recherche.
Oui, tout à fait. Et pour dire à nos auditeurs ce que c'est qu'un backlink, en fait, c'est un lien externe qui pointe vers ton site et c'est pour Google un indice de popularité. Et donc, du coup, plus on a de backlinks et plus le blog est populaire selon Google. Et donc, il sera beaucoup plus mis en avant que si il n'y a pas de backlink du tout. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, effectivement, il faut aussi fonctionner en fonction de Google. Est-ce que tu t'es beaucoup formé en SEO? Alors, le SEO, c'est un acronyme qui résume en gros la discipline qui consiste à faire en sorte d'être enfin comment dirais-je, d'être vu dans le référencement naturel. Et donc, est-ce que tu t'es formé en SEO?
Oui, bien sûr. En construisant mon blog, j'ai pris des formations en fait en ligne qui comportait une partie SEO. Et puis après, j'ai aussi ajouté une extension. C'est encore un peu technique, mais une extension, c'est un peu une application. On va comparer ça à une application. On a le module de base pour construire son blog, et puis on peut rajouter des extensions, entre autres une extension qui sert beaucoup dans la SEO. Donc au moment où on écrit un article, il y a beaucoup de critères qui sont listés, et puis avec des petits voyants verts, orange, rouge, est-ce que le SEO est bon en termes de critères de référencement de l'article. J'ai fait vraiment ça en autodidacte, et puis après, j'ai aussi beaucoup parcouru de documentation sur Google aussi pour savoir comment optimiser un article et arriver à le faire arriver tout en haut de la première page. Mais c'est quelque chose qui, oui, c'est quelque chose que j'ai aussi appris sur le tas, comme on dit chez nous.
Et donc, pour faire connaître ton blog, tu as beaucoup utilisé les groupes Facebook. Et pendant combien de temps?
Alors, je les ai utilisés, je dirais une bonne, en tout cas une année,
Ah oui,
à
ah
raison
oui.
de tous les jours. J'avais l'avantage aussi de travailler, bon, je l'ai toujours d'ailleurs, de travailler avec ma femme, qui fait aussi du MLM. À la base, on était dans la même société, sous la même licence, ce qui fait que le branding de mon blog est en fait samessandra.com. Donc, c'est-à-dire, c'est le prénom de ma femme et moi. Et puis, ça nous a permis aussi de démultiplier les tâches aussi finalement. Elle partageait aussi dans les groupes Facebook, pas les mêmes articles que moi, mais le même jour, ce qui fait qu'on a aussi peut-être avancé plus vite grâce à ça. Après, depuis Noël cette année, j'ai pas mal relâché parce que j'ai vu que en fait le trafic vraiment organique de Google m'amenait 80% de mon trafic. Donc, je me suis dit, je peux lever le pied au niveau du partage sur les groupes. Mais là, depuis mars, depuis que j'ai vraiment reperdu plus de la moitié de mon trafic, je me suis remis pas mal au partage dans les groupes, toujours dans les limites de ce que Facebook accepte pour éviter de se faire bloquer. Donc,
Bien sûr, bien
il faut
sûr.
y aller à petite dose le matin, petite dose à midi, petite dose le soir. Et ouais, ça porte ses fruits. Le trafic est gentiment en train de remonter, mais vraiment gentiment. Bon, on n'est pas reparti de zéro, heureusement, mais le partage dans les groupes Facebook, c'est quand même quelque chose qui est utile.
Et donc, tu parlais tout à l'heure d'articles invités. Hein. Les articles invités, c'est des articles que l'on publie chez d'autres blogueurs. Et pour la même raison, puisqu'on va bénéficier d'un backlink,
Exact.
donc voilà, chez le blog où on écrit un article, on appelle ça des articles invités. Et donc, est-ce que tu en as produit beaucoup? Est-ce que tu en as rédigé beaucoup?
J'en ai rédigé pas loin d'une dizaine, je pense.
Oui.
Alors, ce que j'avais comme avantage, c'est que dans la société MLM dans laquelle j'étais avant, on avait 4 à 5 blogueurs qui sont d'ailleurs toujours dans le top 4 ou 5 des blogueurs MLM. Sur Google, et puis on s'entraidait pas mal. On s'écrivait des articles aussi entre nous, ce
Eh
qui fait
oui.
qu'on a fait aussi monter nos propres blogs respectifs grâce à la collaboration entre nous. Et puis j'en ai aussi écrit chez d'autres blogueurs MLM, d'autres sociétés avec qui j'ai tissé des liens différemment, enfin, d'où l'importance du réseau. Encore une fois, tisser des liens avec les gens, ça sert toujours une fois ou l'autre. Il faut pas. Pas penser que ça va nous servir tout de suite. Et puis, j'ai pu écrire des articles aussi chez des gens que j'étais juste en relation comme ça, hors MLM, on va dire. Mais des sites à très forte autorité, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour qu'un backlink soit vraiment utile, il faut écrire sur un site qui lui-même est populaire. Parce que si on écrit sur un site qui n'a pas de trafic, le backlink va pas amener grand-chose.
Oui, tout à fait. Oui, ça a pas de, il aura moins de valeur aux yeux de Google.
Exactement.
Et donc, ce blog, alors, on peut rappeler le nom du blog?
Samessandra.com.
Voilà, c'est tout simple. Donc,
Très facile, ouais.
voilà, vous, pour les auditrices et les auditeurs qui veulent aller plus loin, de toute façon, dans la description, vous aurez le lien de ce blog, le blog de Sam. Et une question aussi que j'aimerais te poser, Sam, c'est à propos de la prospection, enfin de la facilitation de prospecter grâce à un blog. Est-ce que tu es content finalement de ce que ce blog t'amène en termes de parrainage? Est-ce qu'il y a des éléments très significatifs qui te laissent à penser qu'il faut poursuivre ou au contraire peut-être se diversifier, comme par exemple d'aller sur TikTok?
Alors, pour être honnête, la plupart des parrainages que j'ai faits, je ne les ai pas faits par l'intermédiaire du blog. Bon, après, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, comment on parraine avec un blog, en fait, il faut que les gens s'inscrivent en fait à notre newsletter. Donc, un blog, pour que les gens donnent leur adresse mail, il faut qu'on leur offre un cadeau. En général, c'est une formation gratuite. Les gens s'inscrivent, puis après, on leur adresse de manière régulière des emails, 3 à 4 fois par semaine. Et dans ces emails, je faisais des séquences parrainage, peut-être une fois par mois. Quand je parle de séquences, c'était 2 ou 3 mails à la suite, par exemple, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sur les 7 à 8 séquences que j'ai fait, je pense que j'ai fait 3 ou 4 parrainages. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, j'ai beaucoup de trafic, mais j'ai une conversion en parrainage qui est pas exceptionnelle. Contrairement à d'autres blogueurs qui ont peut-être moins de trafic, mais qui convertissent mieux. Mais là, on en revient aussi à ce qu'on disait au début, le copywriting des newsletters fait beaucoup pour que les gens cliquent, prennent rendez-vous en Zoom, viennent découvrir l'opportunité, puis parrainer. Donc, le blogging, c'est la prospection. C'est pas une formule magique. C'est la première étape d'un partenariat avec un futur filleul MLM. D'une fois qu'on a prospecté, il faut inviter, présenter, closer. Donc, et ça, qu'on ait un blog ou pas, ça change rien. Le blog, c'est juste la porte d'entrée. Donc, j'ai certainement des compétences qui me manquent. Je l'avoue, en termes de closing et de certainement, j'ai des choses encore à apprendre. Mais après, voilà, j'ai pas mal intensifié le travail sur la partie prospection. Voilà. Et puis maintenant que je maîtrise bien cette habileté, comme dit mon ancienne grande upline de chez Arix, une habileté, il est québécois, c'est pour ça qu'il parle pas de compétence, il parle d'habileté parce qu'il traduit ça de l'anglais. Maintenant que j'ai bien développé celle-là, ben je peux plus me concentrer sur les étapes suivantes et puis améliorer ma conversion, qu'on appelle la conversion.
Enfin, l'étape principale, c'est quand même d'avoir des prospects.
On est d'accord, on est d'accord. Mais alors à ce niveau-là, j'ai des prospects, j'en ai beaucoup. Au plus haut du trafic de mon blog, j'avais entre 350 et 400 inscrits mensuels sur ma newsletter.
Ouais, ce qui
Là,
est...
je suis retombé à moins de 200. Donc, ça se ressent tout de suite, quoi.
Ouais, c'est clair, mais 200, ça reste encore quand même pas mal.
Oui, bien sûr.
Parce que en plus de faire des propositions de parrainage, tu peux aussi, j'imagine que tu le fais, parce que la plupart des blogueurs MLM le font, tu peux aussi proposer en affiliation des formations que tu n'as pas toi-même créées, ou d'autres produits, ou des outils,
Oui.
et qui finalement vont compléter tes revenus.
Absolument. C'est ce que je fais, oui. Comme tu le dis, beaucoup de gens le font. Un blog, il faut le monétiser, sinon passer autant de temps à écrire des articles, pardon, ce serait un petit peu dommage. Donc l'affiliation, oui, c'est honnêtement ce qui ramène le plus de revenus actuellement, l'affiliation. Après, je vends aussi ma propre formation. Ça me ramène aussi pas mal par mois. Après, pas mal, on ne parle pas de milliers, on parle plutôt de quelques centaines d'euros. Et puis, j'ai aussi fait des coachings aussi. Mais là, c'était plus dans le but de construire un réseau de relations. Donc, je faisais des coachings, mais gratuits. Par contre, après, le fait de faire des coachings gratuits avec les membres de sa liste, ça peut aussi améliorer l'autorité et la confiance que les gens ont envers ce qu'on peut écrire, leur dire. Et puis, le jour après où on vend une formation d'affiliation, où on essaie de parrainer, on aura plus de chances d'y arriver en ayant fait déjà des coachings avec les gens en amont, qui nous connaissent déjà mieux. Mais il y a plusieurs façons de monétiser son blog, oui. Si on comptait uniquement sur le parrainage, il faudrait beaucoup de temps pour arriver à pouvoir virer son boss. Il faut être honnête. Après, je parle pour moi. Je sais qu'il y a des qui parrainent, peut-être maintenant un peu moins, mais qui à l'époque parrainaient à tour de bras grâce au blog. Mais après, il faut dire que il y a une époque qui aussi révolue, c'est le Covid. Le Covid a gardé beaucoup de gens à la maison et beaucoup de gens qui avaient tout à coup des intérêts à faire des activités sur Internet parce qu'ils étaient à la maison, puis ils s'embêtaient un peu. Donc il y a eu une période de 2020 à on dira mi-22, fin 22, où le MLM a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Mais beaucoup de ces gens-là, maintenant, du coup, ils sont repartis dans le salariat. Donc,
Oui. C'est vrai que le Covid a mis à l'honneur toutes les activités en ligne qui ont connu un pic d'activité sans précédent. Et ça a été pour beaucoup, beaucoup de gens, d'ailleurs, la prise de conscience qu'on pouvait créer des revenus en ligne. Et voilà, il a fallu l'épisode du Covid ou de la Covid. Et
C'est peut-être
donc,
aussi,
est-ce que...
excuse-moi, c'est peut-être
Oui?
aussi ce qui explique la baisse du trafic. Parce que pour en avoir parlé avec d'autres blogueurs, le trafic baisse un peu chez tout le monde. Donc il y
Oui.
a aussi un intérêt pour les activités en ligne qui est un peu peut-être pas en déclin, mais qui s'essouffle un peu comparé à il y a 1 an ou 2 ans. Donc la chute
Oui.
du trafic s'explique aussi certainement en partie par ça.
Oui, c'est général, je confirme. Tout le monde en parle. Il y a effectivement une, je sais pas comment on dit avec le changement d'algorithme de Google. Et donc tout le monde a constaté une baisse. Et c'est la loi du genre, hein, voilà, c'est partout où il y a des plateformes, il y a des algorithmes et ils bougent de temps en
Exactement.
temps. Et quelles sont tes ambitions pour ton blog, Sam?
Bon, moi, j'aimerais, bon, j'y travaille déjà depuis maintenant 1 mois, voire bientôt 2 mois. J'aimerais retrouver un peu le trafic que j'avais au plus haut du trafic que j'avais. J'aimerais retourner plus ou moins à 20 000 pour arriver à rentrer 400, au moins 350 prospects par mois dans ma liste email, parce que c'est ce qu'il faut pour arriver à monétiser de manière correcte. Ça peut peut-être paraître un petit peu superficiel et matérialiste quand je parle de monétiser, mais en même temps, je veux dire, si on fait du business en ligne, c'est pas non plus pour enfiler des perles. Je veux dire, le but, c'est quand même de gagner un peu d'argent. Donc, si on n'a pas de trafic, tout décline, quoi. Les revenus, le nombre de prospects, enfin, tout va ensemble. Donc le but, ouais, pour mon blog, ce serait quand même de retrouver un trafic beaucoup plus conséquent.
Non, mais c'est clair que le but est bien celui-ci, c'est d'en faire une source de revenus et c'est pas un passe-temps.
Non.
Voilà. Et est-ce que tu réseautes avec d'autres blogueurs? Est-ce que tu fais des choses comme ça? Est-ce que tu Ouais, parce que finalement, les blogueurs, ils peuvent être seuls devant leur ordinateur. Et puis voilà, adieu va. Mais est-ce que toi, t'es un petit peu comme ça, ou est-ce que tu prends le temps de contacter d'autres blogueurs, en particulier dans le MLM, ou pas du tout?
Oui, j'en contacte passablement. Bon, ben, comme je te l'ai dit auparavant, la plupart des blogs les plus performants en MLM étaient des membres de mon équipe, donc chez Arix New Age. Donc, j'avais déjà des contacts en tant que crossline ou même downline ou voilà, ou partenaire d'affaires en général. Et puis, ça s'est encore accentué aussi par le fait du blogging. Mais j'ai aussi noué des contacts avec d'autres blogueurs qui n'étaient pas dans ma société de MLM, mais qui étaient des blogueurs très performants, et qui le sont toujours d'ailleurs, des blogueurs de renom, de bonne autorité. Le réseau, il est toujours important. D'ailleurs, si on est là, toi et moi, ce soir, c'est aussi pour prouver qu'il faut être ouvert au réseautage, même si on ne travaille pas pour la même société. Enfin, on a tous un but d'agrandir son réseau.
Oui, en effet.
C'est important.
Oui, c'est sûr. Alors, ça n'a aucun rapport avec ce qui vient d'être dit, mais je te pose cette question parce que c'était une interrogation que moi j'ai, et donc parce que je blogue également. Et est-ce que tu as noté de ton côté qu'il y avait une baisse du taux d'inscription au newsletter, ou est-ce que c'est que chez moi?
Alors, moi, je tiens des statistiques assez précises. Mon taux de conversion de ma page de capture, donc pour parler en français pour que les gens comprennent, ça veut dire que sur 100 personnes qui voient le cadeau gratuit que j'ai à leur offrir, le taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes qui cliquent effectivement pour obtenir ce cadeau. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, il est assez stable. Mais vu que le taux est stable et vu que le trafic diminue, ben forcément le nombre d'inscrits diminue. Mais ça reste dans des proportions
Normal, d'accord.
à quelques dixièmes de points de pourcentage près, ça reste stable.
D'accord. D'accord, ok. Et un bon taux de conversion sur une page de capture, selon toi, c'est combien? Sur 100 visiteurs, un bon taux, ce serait de quel ordre?
Moi, je dirais que à 3, on a déjà un bon taux de couverture.
3%, d'accord.
Après, il y a des gens qui arrivent à plus, mais moi, il fut un temps où j'étais que à 1,5, 2. Puis après, j'ai amélioré beaucoup mes appels à l'action dans les articles, donc le copywriting, encore une fois, pour inciter les gens à cliquer. Puis, je suis arrivé à 3%, en février-mars, j'étais à 3%. Et pour en
D'accord.
avoir parlé avec d'autres blogueurs, ils me disaient, oui, 3%, c'est déjà pas mal. Pas mal, voire tendance bien. C'est mieux que la moyenne.
Alors pour
Après, il y a des
résumer,
blogueurs qui arrivent à 5, 6%. Hein.
oui, ça existe, je sais, ouais. Il y a des blogueurs qui font du 5% et même plus, ouais.
Ce qui est énorme. Mais après, il faut se rendre compte que si on a 20 000 visites par mois, et puis si on a un taux de conversion de 3, c'est-à-dire qu'on a 600 inscrits. Si on a un taux de conversion de 6, ben on a 1 200 inscrits. Donc les chiffres vont vite, d'où l'importance du trafic et du taux de conversion.
Oui. Donc pour résumer un petit peu, ce qui est important si on souhaitait donner quelques conseils à de futurs blogueurs, c'est de s'intéresser au copywriting, de mettre en place une newsletter, de s'intéresser au SEO, comment on se fait référencer, et y aurait-il d'autres choses aussi à rajouter, selon toi, Sam?
Tu as résumé les points principaux. Ce qu'il faut, c'est pas penser qu'on peut y arriver tout seul. En autodidacte, totalement, à mon avis, c'est pas possible. Il faut se former soit en lisant, soit en parcourant d'autres blogs, soit en prenant contact avec des blogueurs, soit en achetant des formations. On est obligé parce que la science infuse, je crois qu'elle existe chez personne. Après, on peut essayer de copier tout ce que les autres blogueurs font, mais on n'arrive jamais à découvrir ce qui se cache en dessous, en fait. C'est ça le problème. Et puis le fait de copier, voilà, c'est pas non plus une très bonne idée parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc ce qu'il faut justement, c'est arriver à se démarquer. Il faut prendre des bases qui sont communes à tout le monde. Il faut se former en copywriting, en SEO, en web marketing en général. Et puis après, il faut vraiment. Et puis il faut s'accrocher aussi. Les premiers mois sont durs, n'ont pas de résultats, n'a pas de trafic.
Oui,
S'accrocher.
c'est un travail de longue haleine. Oui,
Ouais, exactement. Mais qui en vaut vraiment la peine.
Oui, parce qu'en fait, une fois qu'un blog arrive à maturité, c'est pour des années.
Exactement. Et puis la concurrence est relativement faible, hein.
Oui, c'est vrai.
Dans les blogs MLM, il n'y en a pas 40, hein. Il y en a peut-être la moitié de ça. Puis encore sur cette moitié, c'est toujours les 4 ou 5 mêmes qui apparaissent en première page Google. Les autres, peut-être des fois, arrivent sur un article en première page, mais en moyenne, ils sont relégués. Mais peu de concurrence, certes, mais voilà, il faut travailler d'arrache-pied les premières semaines, voire les premiers mois pour pas se décourager. Mais c'est vrai que c'est un moteur diesel. C'est comme je disais au début, d'une fois, contrairement à un post Facebook ou à une vidéo TikTok qui a une date de péremption à 30 jours ou même à 6 ou 7 heures pour certains réseaux sociaux, un article de blog peut ressurgir dans les recherches dans 5, dans 6 ans, dans 10 ans, à condition de quand même toujours d'assurer une certaine maintenance du blog, de renouveler un petit peu certains articles, les mettre un peu à jour, mais ils vont jamais disparaître totalement dans les tréfonds de Google. Si le blog est bon et s'il est maintenu un petit peu, à coup de 1 heure ou 2 heures par jour, par semaine même, les contenus peuvent toujours amener du trafic même dans 5 à 10 ans.
Oui, c'est l'immense avantage du blogging, c'est que la durée de vie des articles est très 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 longue
Exact.
comparée à un post sur Facebook dont la durée de vie est de même pas 12 heures, quoi.
Exactement.
Donc c'est intéressant de ce point de vue-là si on veut s'installer dans la durée et qu'on a une vision à long terme. Une dernière question, Sam, c'est que je voudrais te poser, c'est elle concerne, peut-être que tu t'attendais à cette question, je sais pas. Elle concerne ChatGPT. Est-ce que
Je m'y attendais,
ChatGPT,
oui.
est-ce que c'est une chance pour les blogueurs ou est-ce qu'au contraire c'est un piège?
C'est les deux, je pense. Il y a une réponse de Normand, je suis désolé, mais je pense que ça peut être les deux. C'est un peu comme tout ce qu'on essaie d'automatiser de nos jours, comme la prospection automatique. On nous dit des fois que ça peut être une solution super pour gagner beaucoup de temps. Oui, mais il y a quand même toujours un aspect humain derrière qu'on doit garder. Même si on utilise ChatGPT, moi je l'ai utilisé pour faire un ou deux posts Facebook. Après, il faut savoir l'utiliser. Moi, honnêtement, je ne me suis pas formé dessus. J'ai essayé un petit peu à ma sauce. J'ai pris une petite formation gratuite pour arriver à lui donner les demandes, les requêtes qu'il faut pour arriver au texte qui semble avoir été écrit par un être humain. Après, je sais qu'il existe des gens qui essayent d'écrire carrément des articles de blog entiers avec ChatGPT. Moi, je préfère écrire moi-même, honnêtement, parce que j'adore ça. Mais je dis pas que j'essaierai pas une fois. Mais je pense que oui, c'est une opportunité, mais après, ça peut aussi être un piège où on tombe aussi dans la facilité. Facilité en guillemets, on essaie de gagner du temps, mais peut-être qu'on perd en qualité. Parce que pour avoir lu certains posts Facebook ou avoir reçu certains messages sur Messenger, on arrive à renifler soit le robot de prospection ou le ChatGPT, honnêtement. Moi, j'ai 2 ans d'expérience dans le MLM. Maintenant, j'arrive à le sentir. Alors, peut-être pas, je les sens peut-être pas tous, mais certains, des fois, c'est quand même assez flagrant.
Oui,
Mais je trouve que
c'est très flagrant. C'est très
c'est un
flagrant
outil.
sur Quora. Je sais pas si tu connais Quora, une plateforme de questions-réponses.
Oui, je connais. Oui.
Et il y a un nombre incalculable de réponses à des questions. Et effectivement, ça transpire le ChatGPT parce que quand on a l'habitude de travailler avec ChatGPT, on commence à repérer quand même les réponses qui sont artificielles. Et sur Quora, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Ça dévalorise, je pense, la plateforme parce que c'est plus des humains qui répondent, c'est autre chose.
Oui,
Mais
d'accord.
c'est peut-être ça le piège, en fin de compte.
Ça peut aussi être un enjeu pour le blogging. Après, je pense tout, en fait, je sais pas. J'essaie de dénoncer ce qui me passe par la tête. Mais ChatGPT, peut-être, ça va être un outil que les gens vont utiliser pour se renseigner autrement qu'en allant sur Google. Il peut peut-être y avoir un impact pour nos blogs. C'est pas impossible. Mais après, voilà, avoir ce que ChatGPT est capable de fournir comme information aux gens qui font des recherches vraiment précises, je sais pas.
D'accord.
Mais il peut peut-être y avoir un impact pour des gens comme toi et moi sur nos écrits de blogueurs. On verra.
Bon, exactement. Merci beaucoup, Sam.
Avec grand plaisir.
Et puis pour ceux que cela intéresse, allez en description et allez visiter le blog de Sam. À bientôt,
Merci.
Sam.
À bientôt. Merci beaucoup.